EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Et pour commencer cette belle émission du vendredi, je veux remercier toute la famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. Et j'aimerais aujourd'hui vous lire un témoignage de Ruth qui est aux États-Unis. Alors Ruth nous raconte qu'elle a suivi un live pendant la semaine des miracles et qu'un miracle s'est produit. Dieu a guéri ma fille de l'eczéma pendant la semaine des miracles lorsque Aurélie et Nadine avait prié pour les enfants qui souffraient de maladies de peau. Et depuis, eh bien, elle a même inscrit sa fille dans la famille des partenaires. Donc un grand merci Ruth d'avoir rejoint les partenaires. Mais surtout, on est très heureux de savoir ce que Dieu a fait dans la vie de votre fille. Et oui, Dieu guérit encore, il le fait. Il le fait aussi à travers des émissions. Et c'est ça la beauté des médias, c'est qu'on peut prier pour vous à distance et vous pouvez recevoir la guérison, vous pouvez recevoir la délivrance, vous pouvez recevoir le salut. Et c'est toujours un grand bonheur que de lire vos témoignages et de voir ce que Dieu fait. Donc merci beaucoup beaucoup la famille des partenaires, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire toutes ces émissions, qu'on peut faire tous ces programmes, ces lives, la semaine des miracles et tous ces moments spéciaux aussi dans l'année où on a différents rendez-vous et où on peut prendre le temps de prier pour vous tous à distance, prier aussi pour vous les partenaires. Donc un grand grand merci. Et vous le savez, eh bien cette semaine nous étions avec Pasteur Dorothée Radja et nous avons dit on a une surprise, nous n'avons pas menti et regardez notre surprise. Oui, Louis Radja est avec nous aujourd'hui. Tu es en bonne compagnie, hein, Louis.
Ah bah, très heureux d'être ici.
Donc tu es venu parce que on s'était dit que ce serait chouette de faire une émission avec vous deux et puis de parler de votre relation, parce qu'au final on vous voit ensemble. Ouais. On vous voit surtout travailler ensemble, mais bon, voulant savoir un petit peu plus.
Hein. Wow. Sur notre intimité.
Moi, je trouve que c'est la bonne émission pour en parler et pour un petit peu nous partager. On a parlé de l'envers du décor. Ouais. Nous partager c'est un petit peu ces coulisses. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, mère-fils? Mmh. Est-ce que ça se passe toujours bien? Il n'y a pas le droit de... On n'est pas au tribunal, hein, mais bon, y a pas... on ne ment pas, d'accord?
Pas de règlement de compte.
Et puis aussi, c'est un peu quoi votre histoire? Comment est-ce que vous avez construit votre relation? Parce que vous êtes passé par des moments difficiles. Lorsque votre mari est parti, et toi, ton papa, c'est quand même un événement qui est marquant et qui a été un tournant décisif dans votre vie. Donc, comment est-ce que vous avez pris ce virage ensemble, pas ensemble? C'est beau parce qu'aujourd'hui, on vous voit ensemble, mais c'est sûr qu'il y a toute une histoire de vie derrière tout ça. Tu veux dire ton âge, oui ou pas?
Eh ben oui, j'ai 24 ans.
24 ans, ok.
Tu peux le dire encore, hein.
Tu peux le dire encore. Donc, 24 ans, Louis, et aujourd'hui, juste aujourd'hui, toi, tu fais quoi dans la vie?
Eh ben aujourd'hui, je termine mes études et à la fois également, je travaille à l'église. J'accompagne ma maman. Je la supporte.
La supporte dans quel sens?
Non, je la soutiens.
Ok, d'accord. Et moi, j'ai juste des petites questions pour vous. Allez, juste des petites questions brise-glace. Et après, on va passer un petit peu à votre histoire. Question rapide.
Allez.
C'est qui le plus drôle?
Ah, le plus drôle? Est-ce qu'on est drôle?
Est-ce que t'as dit moi?
Moi, je pense que je suis le plus drôle.
Ouais, t'es drôle.
J'aime bien te taquiner.
Ouais, ouais,
très taquin.
Ouais, c'est qui le plus patient?
Ah, c'est Louis qui est patient.
Ah ouais? Ah
ouais, vraiment, il est patient.
En quoi?
Il est super patient. il a une grande qualité, c'est une super qualité d'écoute.
Ah,
ça, j'ai jamais vu, jamais rencontré ça. Mais la qualité d'écoute, c'est super.
Une écoute active.
Une écoute active et bienveillante et vraiment,
j'apprécie. Tu me le dis.
Tu craignais, mais est-ce que des belles choses?
Non, il a une qualité, j'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais trouvé ça, moi, dans ma vie. J'ai trouvé dans mon fils, c'est super.
Ouais.
Une belle qualité, Louis, que tu viens de découvrir aujourd'hui.
Je viens de la découvrir.
C'est qui a le plus souvent raison?
C'est vrai qu'on a deux caractères.
Moi, je dirais souvent Louis a raison.
Oh,
mais
c'est
quoi zéro là pour
toi? C'est quoi toutes ces déclarations là?
Non, mais parce que en fait, je trouve qu'il y a des choses qu'il a héritées naturellement de mon mari. Mm-hmm. Et mon mari était un homme qui, quand il disait une parole, en fait, c'était toujours une parole qui était sage ou qui avait une profondeur. Et il y a des choses que je retrouve chez lui qui sont vraiment ça s'est passé dans les gènes, dans le sang ou le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais ouais. Mm-hmm. Ah ben après tu peux dire ce que tu veux. Hein.
Ben on est quand même assez différents. À mesure où toi t'es plus dans le fait de la réflexion, plus le frein, plus prendre du temps, et moi je suis plutôt dans le fait d'agir plutôt que de réfléchir après coup. Donc on se complète bien sur ça.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai, on se complète, ouais.
Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez l'autre?
Oh!
Ah! Wow. Ouais.
Wow. Non, comment ça? C'est qui le plus drôle?
Ah. Alors, moi, je sais.
Oh. Ouais, moi, je sais, ouais, je crois.
Ok, toi d'abord.
Tes écouteurs.
Ah.
C'est ton ordinateur et ses écouteurs.
Ah, j'accepte, ouais. Et mon cœur reste ouvert. Moi, ça serait que... Eh ben, je trouve que parfois tu peux manquer de confiance en toi, alors que t'as tellement de qualités, t'as tellement de belles choses, mais tu te mets moins en avant que tu devrais.
Ah, ok.
Et wow. Je suis toujours dans le fait de la pousser, de lui dire, mais c'est super ce que tu dis, c'est super ce que tu fais, elle, tout le temps, elle se remet en question, alors que elle est incroyable.
Mmh. Oh. Tu vois, si l'émission s'arrêtait là, moi,
on aurait déjà eu un super moment.
J'allais dire, en plus, la prochaine question, c'est qu'est-ce que vous admirez ou vous appréciez le plus de l'autre? Parce qu'en réalité, vous avez déjà parlé de l'écoute, mais.
Ah ouais.
Est-ce qu'il a une autre qualité que vous appréciez pas?
J'ai énormément d'admiration pour mon fils et j'espère que j'ai pas d'admiration pour mon fils juste parce que simplement c'est mon fils.
Alors il a des racines italiennes, hein, donc c'est la maman italienne un petit peu.
Non, je vois tellement de qualité, de valeur chez lui que c'est énorme. Ça, c'est pour moi, il est un soutien immense et je m'attendais pas parce qu'il grandisse avec beaucoup de sagesse et de maturité. Il a beaucoup de maturité pour son âge. Et c'est pas juste d'aujourd'hui. Mmh. C'est déjà même jeune, en fait. Mais peut-être aussi, ça vient aussi des circonstances de nos vies et ce qu'on a vécu. Et... Vas-y, et toi, tu veux dire
quoi? Moi, ce que j'admire le plus chez ma mère et ce que je souhaite également, c'est sa force de résilience. Mmh. C'est son caractère dans le fait de persévérer. Et elle a des inquiétudes intérieures, elle a des insécurités, mais elle les dépasse et elle va de l'avant. Et c'est une grosse force de caractère.
Wow.
Sur ça, elle est vraiment admirable.
Mmh. Wow, beau. Wow.
On a pas de
oui, c'est beau. C'est quoi votre passe-temps?
Notre passe-temps. Qu'est-ce qu'on aime faire ensemble? Il y a des trucs qu'on aime faire ensemble.
On aime faire des trucs ensemble, ouais.
Alors, on aime bien aller boire un café, par exemple, dans un bel endroit, prendre un livre, se mettre à part, et puis lire ensemble, en buvant un bon cappuccino dans un endroit inspirant.
Je vois bien faire ça.
Ouais.
Lui aime beaucoup. Alors, il connaît plein d'endroits, que ce soit à Paris ou ailleurs. Il est toujours en train de me montrer des nouveaux endroits qui sont beaux, etc. Puis juste des moments, des parenthèses où on peut méditer, on partage nos lectures. On aime beaucoup le partage, c'est vraiment
échange.
Important.
Mmh, mmh.
Ouais, l'échange.
C'est vrai qu'on travaille ensemble, on est dans le même bureau. Mmh. On est vraiment dans le même espace. Mais tout le temps, il me dit, mais Louis, on se parle jamais, je te vois pas, alors qu'on est
à 24
ans, t'as tes écouteurs.
Non, mais il est super occupé dans plein de trucs, moi aussi dans plein de trucs, puis en fait on peut vivre finalement en se croisant.
Ouais,
et souvent on se croise en fait. Mm-hmm. On n'a pas.
C'est assez ces moments de qualité.
Mmh. Ouais, voilà. Ouais, on a des moments de qualité, mais on fait plein d'autres trucs.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on aime faire?
Comme autre passe-temps qu'on aime faire, les échecs.
Ah oui?
Et d'ailleurs, il y a peut-être une photo qu'on peut montrer de quand on joue aux échecs. Alors c'est pas notre jeu d'habitude, hein. C'est pas aussi grand. C'est pas chez nous. Mais par contre, là, c'est l'un de nos seuls points d'accro. Là. C'est les seuls moments où on peut se disputer. Mais elle est tellement mauvaise joueuse. Mais c'est grave. Et elle me dit, oh Louis, t'es méchant. Mais
il me fait des coups.
T'es sadique, Louis. Tu vois, alors moi j'essaie de construire mon jeu.
Je joue avec lui, je lui fais confiance et paf. En deux coups, il m'a mis échec. Je dis quoi? Mais non, mais là, c'est pas du jeu, là.
Elle me dit, oui, mais t'apprends des techniques, t'apprends. Ça se fait pas. T'apprends des
t'as
techniques.
T'as dû apprendre des trucs sur Internet. Là, ah. Et je dis, mais non.
Bon, donc, il y en a qui est meilleur en échec,
ouais. Ouais.
Ah ouais?
Tantôt, ouais.
Tu la laisses pas gagner, même si elle te fait un peu de pression.
Pas, non,
il n'y en est pas dans l'émotion, dans le sentiment.
Ok, non, sinon, il y a un péril,
il y a plein
d'empathie. Ça me passionne, donc des fois, on met un peu les jeux d'échecs. Voilà. Juste,
que pendant les vacances. Voilà.
Ah ouais, parce que ça vous absorbe.
On y passe des journées. Il fait hyper beau, il fait hyper soleil. T'es en vacances, tu veux boire de la mer. Eh ben, on voit rien, on est là.
Point-là, vous êtes des vrais de vrais.
On aime bien, ouais, c'est bien.
Ah ouais, vous êtes comme chic hein, dans vos passe-temps, moi, je trouve. Ok, bah voilà, c'était mes petites questions brise-glace. Ouais. Et alors, peut-être pour revenir à la genèse de tout ça, parce que moi, j'avais déjà entendu votre témoignage, c'est que Louis, c'est une naissance, un bébé miracle.
Un bébé attendu,
un bébé très mignon d'ailleurs. On va voir Louis si on te reconnaît dans tes premières.
Là, c'était la présentation au Seigneur. Donc il a entre deux et trois mois là. Ouais.
Ok, donc Louis était un enfant bien attendu.
Oui. En fait, après m'être mariée, au bout de quelques années, j'ai eu le désir d'enfant et puis j'ai eu la surprise en fait de dire tiens. Les enfants, ça arrive. Je pensais que ça nous tombait dessus, quoi. En fait. Je pensais qu'il fallait un peu s'en protéger, s'en prémunir, mais non. En fait, ça vient pas aussi vite que prévu. Et puis, et donc, j'étais un petit peu attristée parce qu'au bout, c'est pas rien de catastrophique, mais au bout d'un an et demi, toujours rien. Et bon, ça me touchait. Et je me rappelle un homme de Dieu qui était venu prêcher à l'église, beaucoup de choses que je connaissais pas, rentre dans notre bureau et puis il m'a même pas salué, en fait. Moi, j'arrivais d'une autre pièce et puis il m'a pointé du doigt, il m'a dit toi,
voilà, petite blonde.
Il m'a dit toi, tu as un désir d'enfant. Mm-hmm. Et le Seigneur te dit, il est venu en avril-mai, et le Seigneur te dit que Dieu va te donner ce que ton cœur désire à la fin de l'année.
Ah ouais.
Et j'ai été enceinte en décembre. En décembre, et j'ai annoncé à mon mari en début janvier, je me rappelle.
Alors,
des petits chaussons blancs.
Que ton cœur désire, je sais pas, parce que toi, tu ne voulais qu'une fille. Elle avait peur d'avoir un garçon.
Exactement.
Quand elle a su qu'elle... Comment ça s'est passé quand tu as su que c'était un garçon?
En fait, j'étais contente d'être enceinte, etc. Et puis après, j'ai dit, oui, mais Seigneur, attends, tu veux que tu me donnes une fille, tu peux pas me donner un garçon. Parce un garçon, je saurais pas faire. je saurais pas gérer parce que j'ai vu des mamans quand même élever des garçons qui étaient pas simples, quoi. Mm-hmm. Et, oh, je dis, oh là là, dis donc, il y avait du job, quoi. Et moi, je dis, non, moi, je saurais pas faire. Donc, je veux une fille, juste une fille. Ce qui est complètement, ça n'a pas de sens de dire ça. Et mon mari dit, non, ce sera un garçon. Et j'avoue que je vais dire un truc qui va un petit peu t'embarrasser, pardon, déjà. Mais j'ai dit, quand est venu l'écho, j'ai dit, Seigneur, il y a des choses que je ne veux pas apprendre par l'échographe, par le médecin, il y a des choses que je veux apprendre que de toi. C'est toi qui dois me dire. Toi qui dois me dire quel est le sexe de l'enfant, parce que j'avais cette prière et tout. Et puis la veille, je fais un rêve, et j'ai ce rêve, et puis je retrouve mon mari, moi, devant l'échographe, et puis il y a cet écran, et puis il met le doigt comme ça, et puis il dit, ah ben, il y a un petit zizi.
C'est tellement gênant.
Et ça, c'est le rêve. Et je me dis, ah non, je vais, et vous savez quoi, évidemment.
Bah oui, forcément.
J'ai pas besoin de le répéter.
Si vous voulez,
elle entend peut-être. Non, ça va aller.
Bon, on n'a pas de photo,
Ce n'était qu'une échographie. Donc voilà, je rends grâce
à la déprime.
Un jour ou deux, ouais, j'étais un peu secouée, là, j'ai dit, oh là là, comment je vais faire et tout. Mais non, ça a été, l'amour, évidemment, comme tous les parents, au premier regard, c'est là. Et puis voilà. Et j'aime bien dire ceci, que c'est vrai que je savais dans mon cœur que j'aurais qu'un enfant. Et je le savais. Quand je l'ai porté dans mes bras, je veux dire à tous les parents et tous les futurs parents, je savais que je portais quelqu'un qui était plus important que moi. J'avais vraiment cette parole. Ouais. Je l'ai parfois dit à l'église quand je témoignais. Je savais que je portais dans mes bras quelqu'un qui était plus important que moi. Et je pense que ça veut pas dire qu'on éduque pas notre enfant et qu'on lui apprend pas des valeurs, etc. Et c'est pas le tout est permis et tout est possible. C'est pas ce que veut dire cette phrase. Mais c'est vrai qu'on est en charge d'une destinée.
Absolument.
On a une responsabilité. Je sais que, voilà. Et, donc c'est important, ouais.
Et dans les premières années, comment est-ce que vous étiez déjà donc dans le ministère et très occupé. Et j'imagine toi t'es un petit garçon d'église du coup. Louis.
Ah bah moi j'ai grandi dans l'église. C'est mon air de jeu l'église.
La banane à l'église. Le sourire d'une oreille à l'autre.
Ouais. Donc, tu as fait toutes les réunions, tu as rencontré tous les invités, les voyages. Ils voyageaient aussi avec vous.
Ouais, de temps en temps.
Ok. Et toi, qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur par rapport à ça? Est-ce que tu as toujours su, ok, je sais que moi aussi, un jour, je servirai le Seigneur ou non? Ou tu voyais les choses différemment?
C'est marrant, j'y réfléchissais il y a quelques temps et je me disais quand même, j'ai eu la chance. Et je pense que ça fait qui je suis aujourd'hui, qu'il n'y avait pas le monde des enfants et le monde des parents. Mmh. Et ma mère et mon père m'ont toujours intégré dans ce qu'ils faisaient. Et m'ont toujours, en fait, fait rentrer dans l'équipe. Et même si j'avais 6, 7, 8 ans, par exemple, quand il y avait besoin de prier, d'intercéder, je priais, j'intercédais avec eux. Quand c'était des choses du ministère, etc., ils me posaient des questions, ils m'en faisaient part. Et moi, j'étais tellement
intégré.
Et je me sentais tellement valorisé de ce que mon avis comptait, de ce que... Et en plus, je participais au miracle. Je participais à avoir le témoignage. Quand tu pries, que tu vois la personne, il lui arrive ci, ça, Dieu agit, tout ça. Ça te permet aussi de grandir dans ta foi. Et parfois, c'est triste, mais en parlant avec des parents, il y a le monde des enfants et puis il y a le monde des parents où parfois c'est dissocié. Et je trouve ça n'aide pas dans cet esprit d'équipe. Aujourd'hui, on peut dire que moi et ma mère, on est vraiment une équipe. Mm-hmm. Une petite équipe de deux.
C'est ce qu'on a toujours dit, un binôme.
Mais, c'est un beau duo.
C'est ce qui aussi fait notre lien fort.
Ouais.
Et qui fait qu'il n'y a pas eu de crise de l'adolescence, vraiment. Il n'y a pas eu tout ça parce que comme on est une équipe, on court vers un même but. Et ce but est plus grand que nous.
L'échange et la communication, effectivement, c'est très fort dans notre maison, dans notre relation aussi. On partage nos
cœurs. Vous êtes transparents l'un avec l'autre.
Ouais. On partage nos craintes, nos cœurs, nos prières, nos échanges, ce que l'on reçoit du Seigneur. Et notamment dans les choses de Dieu, alors dans les choses de la vie, évidemment, et aussi dans les choses de Dieu. Et je pense que c'est important d'associer... son enfant et lui aussi il me partage ce qu'il reçoit de la part du Seigneur, ça m'intéresse, ça me passionne et je lui dis aussi ce que je reçois.
Vous parlez de tout?
De tout.
Moi, je pense. Réfléchis. Est-ce que j'ai fait des cachotteries à ma maman?
Non, on a dit le futur, la future.
Non, c'est ça. Il y a pas de sujet tabou.
Non. Tout ce qu'il y en a. Moi, tout ce
second. Même des fois, elle m'en parlait un peu trop de tout. Par exemple, le projet bâtiment, là, toutes les crades, etc. Forcément, j'étais au courant. Et ça a permis de voir Dieu agir à chaque fois, et c'est ce qui a bâti ma foi aussi.
C'est vrai aussi, ouais.
Et qu'est-ce qui a changé dans votre relation après, peut-être en commençant par toi, Louis, après le départ de ton papa, qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec ta maman?
Quand il y a eu le départ de mon père, déjà avant le départ de mon père, on a toujours été très fusionnels.
Les deux.
Ouais, toujours très très proches, très fusionnels, même avec papa, mais on a toujours une excellente relation, tout ça. Et puis après, j'avais vraiment ce fardeau, cette charge, ce que je sentais que OK, on est une famille de deux maintenant. Il y a cette situation et je suis là pour elle et elle est là pour moi. Et même si elle le souhaite pas, même si des fois elle en a pas envie de ça, mais parfois je gardais des choses pour moi, pour la préserver, tout ça. Et j'ai toujours essayé de l'aider et elle a toujours essayé de m'aider. Et en fait, cette situation-là, cette crise, elle a fait que notre lien a été fort. Et que je pense pas qu'on aurait eu la même relation s'il n'y avait pas ça qui s'était produit.
Oui, je pense qu'on aurait été fusionnels de toute façon parce qu'on l'est, mais c'est vrai que ça nous a renforcés, évidemment, et qu'on s'est soutenus beaucoup. Ouais.
Pas autant, je pense.
Possible, oui.
Parce qu'on aurait eu moins besoin de prier, peut-être, moins besoin d'avoir des temps de jeûne ensemble, de prière, tout ça.
Ouais, est-ce que dans tout ça, vous aviez, après le départ, est-ce que vous avez réussi à tout de suite à communiquer, à partager, même si vous vous préserviez l'un et l'autre, mais à partager encore des temps fun et tout ça?
Peut-être pas tout de suite, hein, ça a peut-être pris un peu de temps, hein, mais je pense que Louis, il a voulu me préserver, hein, comme un jeune garçon qui perd son papa à 11 ans.
Bah oui, 11 ans, c'est jeune.
Et qui est jeune et qui, d'un seul coup, est propulsé dans une maturité parce que bah, les choses, comme on dit, les choses dures, bah, elles te renforcent et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et bah, il m'a préservé. Parce que bah, moi, ça a été évidemment un stress avec tout ce que l'on entend entre continuer l'église, etc., mais toutes les situations avec le bâtiment et autres. Et voilà, il a pris beaucoup sur lui. Et je le regrette parce que les douleurs, que certaines douleurs par lesquelles il est passé dans l'enfance, bah, il ne les a pas partagées. Mm-hmm. C'est vrai que nous, les parents, on aime nos enfants et tout. On pense que tout va bien. Et ce n'est pas parce qu'ils ne disent pas que ça ne va pas. Et si je devais refaire les choses, j'aurais été encore plus attentive et plus à essayer de comprendre ce par quoi il passait. Mmh.
C'est vrai que pendant les deux premières années, on peut dire qu'on se croisait. Hein, parce que toi, tu avais toutes ces situations, toutes ces crises, etc. Ouais. Tu rentrais tard, moi j'allais à l'école, je me couchais, etc. Et on se croisait simplement. Mmh. Et moi, je ne le regrette pas ce temps. Parce que toutes choses font aujourd'hui
ce que tu es.
Ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis aussi de plus m'appuyer sur Dieu. De plus me confier à Dieu. Quand mon père est mort, j'ai fait cette prière. Le jour où j'ai appris qu'il était mort, j'ai dit à partir de ce jour, je fais de toi mon père. Et ça, c'était pas une prière que j'avais besoin de faire avant parce que j'avais un super foyer, une super maison, j'avais un père. Mais là, quand il te manque ton père, tu sens que tu as besoin d'un appui. Et là, j'avais besoin de Dieu. Et donc, il y a des soirs, il y a des nuits où j'avais 11, 12 ans, où je pleurais dans mon lit. Et au lieu de les pleurer dans les bras de ma maman, je les pleurais dans les bras de Dieu, quoi. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon témoignage.
C'est vrai.
Et t'as pas eu des 11, 12 ans, mais plus le temps avance, l'adolescence, tout ça, des pourquoi ou non, tout de suite, ça a été...
Si, j'en ai eu. J'en ai eu des pourquoi. Temps. J'ai eu un long deuil, en fait. Comme j'avais tout camouflé et que... Je me rappelle quand tu m'as annoncé que papa était parti, j'étais sur tes genoux, j'ai commencé à pleurer. Puis comme c'est une maman, elle est protectrice, elle m'a dit « Mais Louis, s'il te plaît, ne pleure pas. » Et je m'en souviens. Et ça m'a marqué. Et donc j'ai ravalé mes larmes. Et pendant en fait 5 ans, je n'ai pas pleuré, mon père. J'ai pas fait mon deuil. Mais j'avais quand même en moi cette incompréhension. J'avais de l'agressivité, de la colère, parce que j'avais pas fait ce deuil. Et puis, je ne vais pas rentrer dans tout le témoignage, mais Dieu a agi un jour et Dieu m'a totalement libéré. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en une nuit, en une matinée. Et puis, j'ai été totalement libéré.
C'est beau.
Ouais.
Et voilà.
Dieu l'a conduit dans un processus, en fait. Vraiment, il a entendu le cri de son cœur et tu as eu une expérience spirituelle dans une nuit où le Saint-Esprit a vraiment...
Il a tout retiré. Et avant, limite, je ne pouvais pas regarder des photos de mon père. Je ne pouvais pas écouter sa voix, sa cassette. Quand mes amis parlaient de ce qu'ils faisaient avec leur père, je sentais mon cœur physiquement se serrer. Et puis, le Saint-Esprit a agi en une nuit, à travers d'un rêve. Et du jour au lendemain, tout a basculé. Le lendemain, après avoir tout pleuré, j'ai passé ma journée à écouter ses cassettes, à regarder des photos. Et depuis ce jour, je n'ai jamais ressenti une douleur.
Cette nuit-là, il a eu un rêve. Dieu l'a visité par un rêve. Il a vécu l'enterrement de son père, en fait. Et puis, il arrivait à 4 heures du matin dans ma chambre. Il était en larmes. Il était en plein dans le fait de tout ce qui était bloqué sortait. Et après, il a été guéri.
J'avais pleuré pendant plusieurs heures.
Plusieurs heures.
Et puis ensuite, c'est totalement parti.
Et
je crois que c'est aussi par les prières de ma maman.
C'est certain. Et est-ce que c'était toi dans ton ambition, dans tes projets, que de travailler avec
avec ta maman? Pas du tout. Mais je voulais pas.
Le rêve de ta vie, tous les fils de travailler avec leur mère.
Je voulais faire de l'économie, de la finance. Je suis allé en fac d'éco pour faire de la finance. D'entreprise, etc., pour partir. Et puis, en fait, au fur et à mesure, des choses qui tirent, des choses en moi, des choses, envie d'aider, de servir. Et puis, au fur et à mesure, juste l'abandon, quoi.
Mais vous le saviez, moi, ce qui est très important, moi, je me positionne comme une maman qui ne veut pas dépendre d'eux. Parce que c'est très facile, justement, dans ces situations, de dire, tu vas tout déverser sur ton enfant, tu vas rester accroché à lui, tu vas voilà. Et je veux surtout pas entrer dans ce schéma de maman, donc je veux qu'il fasse sa vie, qu'il soit heureux, qu'il fasse ses choix. Et si Dieu lui parle, Dieu lui parle, mais moi je serai pas Dieu. Je serai pas Dieu qui ce sera pas moi. Si Dieu lui parle, il lui parle, mais ça passera pas par moi. Parce que le schéma est trop dangereux.
Mais quand même, est-ce que au fond de vous, vous saviez où était sa place?
Eh ben, écoutez, oui, bien sûr. Disons que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a dans son cœur ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, et ça ne me choque pas, ça me fait plaisir. Et en même temps, moi, je me permets pas d'aller dans cette direction et je le laisse.
Donc c'est lui, au final, c'est toi qui es venu. Hein. Alors, c'est toi qui es venu chercher
ça, dans son cœur,
Mais quand même, tu m'as, on va dire, un
ouvert
petit peu
la porte.
Ouvert la porte, un peu d'une façon, on va dire, pas très politiquement correcte, dans la mesure où ma mère aime bien me dire, bon bah, tu vas partager demain, tu vois, ou par exemple, bah tiens, prends le micro, fais ci, fais ça. Et par exemple, depuis tout jeune, elle me donnait le micro pour traduire mon papa, alors que j'avais 10 ans, par exemple. ou pour intervenir juste avant le message. Elle aimait bien me faire ces petites sortes de surprises aussi. Donc,
ceci était mettre un petit peu dans le bain.
Oui, mais elle était guidée parce que c'est un excellent communicateur. Vraiment, avec beaucoup de profondeur, d'authenticité.
Oh, merci.
Et
merci.
Quand on t'écoute, je pense que c'est... Elle avait raison.
Je prends ce compliment, vraiment.
Je suis relancement de...
Oh, oui, hein.
Ça, honnêtement, on voit les communicateurs et vrai de vrai.
Merci.
Et parce qu'en fait, on te voit, donc c'est sûr, tu prêches bien. Tu t'occupes aussi des jeunes à l'église.
Des jeunes de l'église.
Mais tu es aussi... tu travailles aussi dans les coulisses. Pas qu'un peu. Hein. C'est toi qui as pris, si je me trompe, pas la responsabilité de tes chefs de projet, en fait, la construction.
Aujourd'hui, un peu mon rôle, c'est celui d'un directeur général, dans la mesure où j'ai également fait des études en promotion aménagement immobilier, qui me permettent aujourd'hui de suivre et de travailler pour le chantier, la construction de l'église, et pour aussi, et ma deuxième casquette est de préparer l'église à rentrer dedans et pouvoir, non seulement qu'on ait un beau bâtiment, mais que Dieu puisse agir et que ça soit un outil, en fait. Et donc, ça aussi, c'est tout un témoignage de parce que je voulais pas le faire. J'étais torturé de l'intérieur. Et puis Dieu m'a parlé, notamment quand je priais, je disais à Dieu, bon, bah là, je me sens vraiment tiraillé. J'ai envie de faire autre chose, mais je sens que je dois y aller. Et en priant, j'ai vu nombre 12 s'afficher devant moi. Puis je suis allé regarder. Et puis en fait, c'était Dieu qui avait appelé dans la tente Moïse. Et il avait dit, je parle à mon serviteur de bouche à oreille et je ne le laisse pas perplexe. Et quand je prie, je disais, Dieu, je suis perplexe. Donc là, j'ai dit, bon, j'ai appelé tout de suite ma mère, je pleurais, je disais, bon, ok, j'accepte, je viens.
C'est vrai. Donc c'est pas venu de moi, c'est venu de lui, mais
de Dieu.
Il faut que ça vienne de Dieu. Exactement.
C'est bien parce que souvent quand on est les mamans puis on impose, après ça, si ça se passe mal, ben les regrets ou les comme ça, on sait que si vous faites le pas, même vos enfants font le pas, on sait que c'est Dieu qui a parlé. Donc
c'est que t'obéis à Dieu.
Exact.
C'est ça. C'est ce qui porte. Comme tu disais, la parole de Dieu, bah, elle nous porte. Quand c'est difficile, on sait que malgré tout, on est au bon endroit.
Donc tous les jours, vous travaillez ensemble maintenant.
Ouais. C'est chouette.
C'est
vraiment
chouette.
Une grâce, un cadeau.
C'est une belle
idée. Comment vous faites pour passer d'une casquette à l'autre? Est-ce que vous passez d'une casquette à l'autre ou est-ce que naturellement les choses se font?
La casquette, elle, des fois, elle part du bureau et elle arrive jusqu'à la maison.
Il n'y a pas vraiment de casquette, hein, c'est la même, en fait. À la maison, parfois, j'ai dit, maman.
Ça continue, quoi.
Maman, il est minuit, je veux me coucher, là, de quoi tu me parles?
Ouais, donc ça continue, vous.
Parfois.
Parfois.
Ouais. Ça déborde un peu.
Dans toutes les familles, Annabelle. Okay. Pour le ministère, ça vient à la maison.
Mais du coup, toi, en tant que, parce que tu restes quand même le fils, hein. Mais, est-ce que, si t'as raison, si t'as un point à faire valoir, comment tu fais se passer ça?
Comment ça se passe?
Non, Louis a beaucoup de sagesse, beaucoup de tact.
Diplomate.
Très diplomate, exactement. Donc, il va jamais forcer les choses. Et puis, c'est ce qu'il faut faire parce que ça se passe pas comme ça dans le ministère. C'est sûr. Donc, il va apporter les choses, dire, voilà. Donc, non, il est très délicat et très...
Et puis, une chose importante à dire, c'est que bien que c'est ma maman, c'est aussi mon pasteur. Et je reconnais ça.
Respectueux. Mm-hmm.
Et parfois même sur Estrade, les gens rigolent parce que je dis bon, on va appeler Pasteur Dorothée, alors que c'est ma maman. Mais ouais, je reconnais que ce que Dieu a mis sur sa vie, et que moi je suis là aujourd'hui pour la soutenir sa vision et pour l'aider. Parfois j'ai des envies, j'ai des ambitions et j'aimerais. Mais c'est elle la porte et c'est elle qui choisit. Donc je dois apporter les choses de façon à.
Moi, je pense plein de choses que peut-être je ne peux pas partager là ou maintenant, mais je pense que voilà, Dieu sait très bien comment il fait les choses et que les choses qu'il a dans son cœur profondément, il faut qu'il avance avec et qu'il le fasse. Et moi, je veux pas du tout être un frein. Au contraire, je veux le soutenir. En fait, on se soutient mutuellement. On soutient la vision et nos visions sont ensemble pour bâtir le royaume de Dieu. Et voilà.
Ouais. Bah, Dieu avait raison en vous donnant un fils, finalement.
Ouais,
il a bien fait les choses.
Ah, c'est super, je regrette pas.
Franchement, c'est certain.
Absolument.
Tu vois, Louis, c'est bon, pas de regrets.
Il y a un truc qui est fort quand même, je trouve, qui est important à dire dans notre relation, c'est qu'on est spirituellement connectés. Mmh. Et ça me fait flipper.
Ouais.
Parce que...
C'est vrai.
Non, mais on étudie tout le temps. Quasiment tout le temps les mêmes choses. En se disant pas.
Ah,
par exemple, chaque année, il y a la parole prophétique pour l'année, et elle me demande de partager un truc avant, et on se concerte pas, et c'est tout le temps relié à la même chose. Mm-hmm. Sur ça, par exemple, récemment, elle m'a demandé de prêcher, je savais pas trop sur quoi prêcher, et puis Dieu m'a mis dans mon cœur de prêcher sur les prénoms. Ok, une thématique quand même très particulière.
Ouais, quand même.
Et puis le titre, c'était ton prénom, une prophétie cachée. Et puis je l'appelle, je dis maman, samedi, demain je vais prêcher sur ça. Elle me dit c'est marrant, j'ai été à une conférence, j'ai parlé de ça. Et elle aussi, elle étudie ça en ce moment. Et il y a plein de trucs comme ça où on est très reliés.
Ouais, on étudie les mêmes choses, les mêmes thématiques, comme tu as prêché sur le célibat.
Ouais. Pour les jeunes, j'avais prêché.
Pourquoi tu prêches sur le célibat? Moi aussi, je viens de tout étudier sur le célibat. Et en même temps, c'est marrant. Donc on peut partager ensemble, c'est riche en fait, il y a une richesse,
il y a des
débats grâce.
Quelquefois.
Alors pas plutôt de on s'apporte en fait. C'est pas des débats, on n'est pas contradictoire, on n'est jamais contradictoire, mais je t'amène des éléments et je te montre ah ouais d'accord et moi je te donc en fait on se bâtit ensemble.
Et une bonne chose aussi c'est qu'on n'est pas rancunier. Ça, c'est important.
On n'a pas de dispute.
Parfois, où on les oublie.
Ouais, c'est surtout
je pense
ça.
C'est plutôt dans ça qu'on, parce que c'est vrai que on garde que le positif.
On n'a pas de dispute, pas d'esprit de dispute chez nous. C'est bien.
Ouais, elle le permet pas.
La dispute n'est pas possible.
La dispute n'est pas permise.
Donc, on n'a pas de dispute.
Donc,
tu vas disputer tout seul dehors.
Chien.
Non, mais c'est vrai que c'est important. De garder, voyez, il peut y avoir toujours un peu de tension dans une maison, le ménage est pas fait ou on n'a pas le temps.
Est-ce qu'on va parler de ça?
Je sais pas, Louis, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus?
Le ménage. Des fois,
est-ce que tu prennes main forte?
On laisse tantôt moi des choses, etc.
Est-ce que je prête main forte?
Est-ce que
ça va d'accord? À toi de me dire, moi.
Ça va d'abord.
Mais on va pas disputer.
On se dit les choses. De sorte qu'on arrive à se comprendre, mais le ton reste toujours le même. Ouais. Mm-hmm. On n'est pas dans les ça c'est non, no way. C'est genre okay. Et on se comprend vite en fait. C'est ok, d'accord.
Mais c'est quand même.
C'est important.
C'est un témoignage, c'est un exemple que tu m'as montré quand même dans la relation que tu avais avec papa. Dans les années où j'ai pu vous voir ensemble, j'ai jamais vu une dispute. Et à chaque fois qu'il y avait une dispute ou un truc, je me rappelle toujours que ça durait 5 minutes et après ils s'embrassaient et c'était fini. Et j'ai toujours vécu dans une maison où il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas d'essayer de j'impose mon truc à l'autre, etc. Et c'est ça aussi qui a permis d'avoir cette bonne relation quoi, entre nous.
Oui, c'est important. Les disputes, ça casse beaucoup de choses.
Ça abîme les relations. Faut bien se disputer. On a fait une émission avec les Dufour, apprendre à bien se disputer, notamment dans le cadre du couple. Mais bon, ceci dit, c'est des bonnes règles et des bons principes pour les relations aussi, toutes sortes de relations. Parce que j'ai bien compris que vous aviez pas mis de pression du tout à Louis pour qu'il fasse quoi que ce soit ou pour lui tordre un peu le bras. Mais est-ce que toi, de ton côté, t'as ressenti une forme de pression de te dire il y a un héritage, il y a comme une suite, il y a une place. En plus, physiquement, tu ressembles beaucoup à ton papa quand même. Et peut-être, tu vois, dans la de percevoir que les gens pouvaient avoir certaines attentes de toi. Est-ce que tu as senti une pression?
Quand j'étais adolescent, je l'avais cette pression. Mm-hmm. Dans la mesure où c'est quand même deux phénomènes, mes parents. Ma mère, elle vous a raconté ses histoires, elle voit le ciel, elle voit l'enfer, oui. Toute cette conduite du Saint-Esprit, puis mon père...
Au petit déjeuner, ça devait être sympa.
Il a vu deux fois Jésus, il est mort-né, il est ressuscité à sa naissance, sur l'estrade, tout ça, des histoires de fous furieux, et puis t'as moi qui arrive, genre la vie normale. Et donc je me suis dit, bah mince alors...
Bienvenue dans le club.
C'est ça, rien de truc extraordinaire. Bon, je me suis dit, bon bah voilà, c'est les superstars, et puis voilà, la vie est normale. Et puis en fait, au fur et à mesure... En me rapprochant de Dieu, en ayant ma propre relation, intimité avec Dieu, bah, j'ai vu que en fait, il n'y avait pas besoin de toutes ces expériences surnaturelles pour penser que Dieu avait nos yeux sur nous, quoi.
Mm-hmm. Bien sûr. Mm-hmm.
Et le petit témoignage que j'ai sur le deuil, bah, c'est ce que Dieu m'a donné et j'en suis très content. Mmh. Et je vois Dieu agir quand même au travers de ça. Ah,
petit témoignage.
Ouais, c'est ça.
Ce que j'aime beaucoup de mon fils, c'est sa vie de prière. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui me touche, et c'est pour ça aussi que j'ai confiance en lui, et j'ai confiance dans son jugement ou dans ses décisions, dans les choses qu'il a à cœur, parce que il a un fondement de prière et une vie personnelle cachée, intime, qui est profonde. C'est-à-dire dans l'iceberg, hein, mm-hmm. il y a la partie visible, la partie invisible.
Ouais.
La partie invisible, elle est profonde, et moi je le sais.
Oui.
Moi je le sais parce que bon, bah. Ouvre une porte, tu vois quelqu'un qui prie, voilà, c'est sa vie. Il a un socle très fort depuis de longues années qu'il a mis en place et qui ne vient pas de moi. J'ai jamais dit à mon fils, tu dois prier.
Est-ce que
j'ai jamais dit à mon, j'ai dit à mon fils, tu dois prier, tu dois lire ta Bible. Non, j'ai jamais dit ça en fait. Okay. C'est venu de lui et j'ai vu des choses s'installer, j'ai vu ses disciplines, ses routines, ses choses se mettre en place. J'ai vu cette profondeur. Alors, moi, j'aime beaucoup ça, j'estime ça beaucoup. Mmh.
Tu m'as jamais imposé, mais tu m'as intégré à ta propre vie.
Et j'aime qu'on prie ensemble aussi.
De prière et de relation avec Dieu. Et que
pas
j'ai
assez pris... ensemble.
Voilà, je te le dis.
Mais on peut
c'est
pas...
dit, Louis.
Mais quand on prie ensemble, on aime prier ensemble. Mmh. C'est, ouais. Et Louis, il a une profondeur, une intimité avec Dieu qui est très belle et que j'aime beaucoup. Je suis spectatrice. Non, mais j'aime beaucoup être spectatrice. Ouais. Je ne suis pas actrice. Mm-hmm. Je suis spectatrice. Mm-hmm. Et je vois et je dis waouh, ok, super, très bien, merci.
Ben, si, c'est sûr,
quelle grâce.
Vas-y, Louis.
Si, t'es actrice par l'exemple que tu donnes, tu vois. Et t'as reproduit avec moi la relation que t'avais avec ta mère.
Ouais.
Ou par exemple, une chose que l'on fait par exemple, pendant les vacances, tout ça, c'est. Au petit déjeuner, quand on a du temps, on pose notre Bible et on parle, on échange. Ah, j'ai lu ça,
j'ai lu ça.
Qu'est-ce que t'as compris, ça, tout ça. Ouais. Et avec ma grand-mère, toi et moi. Et c'est nos meilleurs moments, en fait.
Mm-hmm. Ah ouais.
Ça rend la Bible vivante, ouais, ça rend la Bible intéressante.
C'est ce qu'on aime le plus.
C'est ce qu'on aime le plus, ouais.
C'est partager ce qu'on a comme révélation dans la Bible. Là, moi, je revenais d'Athènes. Je te parlais d'une révélation que j'avais eue quand j'étais allée à l'Acropole, etc. Ah et, oh, ouais, t'as appris ça, d'accord. Etc. Et on se construit nous-mêmes, on échange, on a un échange spirituel qui est très profond en fait. Mm-hmm. Et ça c'est vraiment chouette quoi.
Mais ouais, ça fait rêver en fait. Je pense que mais beaucoup.
Et j'avais ça avec ma mère aussi. Hein.
Ah oui.
On a cultivé ça de toute mon enfance aussi. J'ai aimé et encore aujourd'hui. Hein, ma mère
partage.
Et moi on a ce même partage.
Vous appelez, vous échangez.
Ouais.
Tout.
Dieu m'a dit ouais j'ai eu ça, j'ai compris ça dans la parole, etc. Bon, ouais, c'est.
Ben, on vous salue d'ailleurs, Monique.
Ah,
plaisir
oui.
de vous revoir. Ouais, une très
merci.
Belle femme qui a donné une très belle fille.
Oh,
et d'ailleurs, juste pour le plaisir, nous avons des photos de vous, Pasteur Dorothée, jeune. Oh. Et franchement, moi, je les avais jamais vues, ces photos-là.
Pasteur Dorothée, c'était mannequin, Dorothée.
Ouais, non,
c'était la superstar, Dorothée. Oh là là!
Et oh là là, on a une autre
Ah oui.
18 ans là.
Regarde,
oh là
Chanel.
Là, je suis jeune mariée.
Jeune mariée là.
Ouais.
On comprend mieux comment mon père l'a mariée en 6 mois.
Ouais.
Il fallait vite mettre le cadenas là. Il fallait sécuriser.
Elle a été rapide sur certains détails.
Tu
bon, il y avait des raisons. Mais quelle beauté. Hein. Mais merci d'avoir partagé, un petit peu de votre intimité.
Oui, c'est beau.
Et puis, ce qu'on voit, c'est le reflet de ce qui existe vraiment.
C'est vrai, ouais.
Et j'avoue que c'est très beau de vous voir et à travers les années. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de vous voir ensemble. C'est que, Pasteur Dorothée, vous pouvez être, je pense que vous l'avez déjà dit, mais assez impressionnante. À côtoyer, ben oui, c'est sûr, à côtoyer et d'avoir aussi de tout temps vu votre côté maternel et cette douceur, cette affection envers votre fils, ça a toujours été très inspirant. Et puis de voir Louis aussi à la fois t'es détendu, mais le respect, c'est vrai, il y a c'est très fort ce respect que t'as à la fois pour ta maman, mais aussi pour la femme de Dieu qu'elle est que t'es. Je pense pas que tu sois en mode d'appuyer sur des boutons, ça se fait non, naturellement. Et de voir, en fait, vous avez construit ça au fur et à mesure, et qu'à travers l'épreuve, votre relation s'est fortifiée, été détruite.
Non.
Et je pense que ça aurait été le plan parfait du diable, il a échoué. Mais il a bien échoué. Et aujourd'hui, vous êtes un duo, un binôme dangereux pour les ténèbres, vraiment, et fort dans votre complicité, dans votre amour, puis dans votre complémentarité de vos forces et de vous voir de voir ce que Dieu est en train de faire à travers vous pour tout le ministère de Paris Centre Chrétien et pour toute la francophonie je pense que c'est encourageant et c'est encourageant de se dire c'est possible aussi d'avoir une belle relation avec ses enfants, de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Et si aujourd'hui vous vous dites moi j'aimerais avoir cette relation mais ça me semble impossible, ce n'est pas trop tard. Dieu est celui qui ramène le cœur des enfants, le cœur des fils et des filles à leur père et à leur mère, et on s'associe à vous. Et je vous le dis, bientôt on aura un témoignage aussi de Stéphanie qui nous racontera avec son fils, qui nous partageront aussi votre témoignage qui est totalement différent, mais je crois que ça va donner beaucoup d'espoir. Et peu importe quelquefois les chemins que ça peut prendre, ce qui compte c'est la finalité. Et vos fils et vos filles reviennent à la maison, ils reviennent au Seigneur, ils reviennent près de vous, et vous aussi vous aurez ces moments au petit déjeuner où vous allez échanger sur la parole, et ça va réjouir votre cœur. Ce jour arrive. Un grand merci. Wow.
Merci
à vous.
C'était super.
Oui, t'as pris plein de compliments.
C'est la meilleure publicité pour moi.
Tu pourras regarder l'émission en boucle.
On va partager.
Quand elle me disputera, maman, souviens-toi de ce que t'as dit là.
Et merci d'avoir accepté de vous ouvrir et de l'avoir fait. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.